Surpris par la nuit.
Flaubert plus tard. Grand dictionnaire universel du 19e siècle, 1872. La restriction légère sur le ventre, avec une flanelle chaude, sèche ou imprégnée de vapeurs aromatiques ou stimulantes, tout en combattant cependant l'atonie, les acidités, la constipation selon les cas. Flaubert, Achille Cléophas. Chirurgien français né à Mézières, Aube, en 1784, mort à Rouen en 1846. Il fut pendant 32 ans chirurgien en chef de l'Hôtel Dieu de cette dernière ville. Rouen le compte avec justice parmi ses illustrations les plus nobles et les plus pures. Son buste en marbre a été placé dans une des salles de l'Hôtel Dieu où pendant si longtemps il prodigua ses soins. Monsieur Flaubert a publié les deux mémoires suivants. Observation sur une nouvelle manière de pratiquer chez les femmes la lithotomie, Académie de Rouen, 1815. Mémoire sur plusieurs cas de luxation dans lesquels les efforts pour la réduction ont été suivis d'accidents graves, dans le répertoire d'anatomie et de physiologie, 1827. Flaubert Gustave. Romancier français, né à Rouen le 12 décembre 1821. Fils et frère de médecins distingués, M. Flaubert, dit M. Sainte-Beuve, tient la plume comme d'autres le scalpel. On ne saurait être plus court, plus précis et plus juste dans l'appréciation d'un talent. M. Gustave Flaubert est en effet le fils d'un médecin très distingué de Rouen, voir ci-dessus. Comme son père et comme son frère aîné, il s'était destiné à la médecine, mais il s'aperçut bientôt que l'observation des phénomènes de l'ordre moral convenait mieux à ses aptitudes, et il cessa ses études scientifiques pour se tourner vers la littérature. M. Flaubert, et c'est là ce qui le distingue entre tous, se garda bien de hâter le jour de ses débuts. Il semble, au contraire, qu'il l'ait éloigné le plus possible, afin de mieux rassembler ses forces, d'être plus sûr de ses armes, et de choisir à son aise le terrain. Il avait 36 ans lorsqu'il fit paraître son premier ouvrage. Peu d'écrivains ont commencé aussi tard. Moins encore sont arrivés aussi rapidement à tant de renommée.
Nous ferions bien de voir à la ferme s'il n'est pas arrivé quelque chose.
Flaubert plus tard, question. Qu'est-ce qu'il reste de Flaubert? À l'école, dans les livres et dans l'art. Dans le dictionnaire, dans plusieurs têtes, à Croisset en Normandie.
Devant cet horizon de merveille, Bouvard et Pécuchet eurent comme un éblouissement.
Réponse 1. Dans ma propre tête, en assez résumé, il reste. Premièrement, bien écrire le médiocre. Deuxièmement, refuser la bêtise, travailler le style pendant toute sa vie contre la bêtise et écrire à la fin comme testament le livre sur la bêtise, Bouvard et Pécuchet et le dictionnaire des idées reçues. Troisièmement, le gant de Frédéric Moreau qui éclate subitement tandis qu'il monte plein de concupiscence l'escalier de chez Madame Arnaud. Quatrièmement, le jardin de Bouvard et Pécuchet et le compost maison qu'il fabrique. Cinquièmement, il me reste encore. Nuit de jeudi, 1h, je voudrais écrire un livre où il n'y eut pas un mot de mon cru. Sixièmement, ne pas vouloir mourir avant d'avoir versé un pot de merde sur la tête de ses semblables. Flaubert, plus tard, résidus et accélération de Flaubert chez quelques auteurs et artistes contemporains. Réponse 2. Ce qu'il reste de Flaubert dans la tête de Jacques-Henri Michaud et dans son ABC de la barbarie. Attention, indication utile. Un ABC de la barbarie est le livre de Jacques-Henri Michaud. Dans ce livre, il établit un catalogue de clichés médiatiques rangés par ordre alphabétique. Ces clichés médiatiques, il les appelle des bruits.
De plus, entre les bruits toujours par ordre alphabétique, il intercale des extraits ou des titres d'œuvres qu'il aime. De plus, dans les notes en bas de page, une fiction se construit. Dans cette fiction, il est question de trois amis. En particulier, il y a Barnabé qui est l'auteur fictif de la liste alphabétique, en quelque sorte le double de Jacques-Henri Michaud. Attention, attention, Jacques-Henri Michaud va comparer son idée alphabétique de l'ABC de la barbarie avec l'idée du dictionnaire pour Flaubert. Il va y avoir du bruit parce qu'on est à la brasserie des ondes, parce qu'il y a du bruit et parce qu'il y a des ondes. Attention, avant, réponse 2, Jacques-Henri Michaud, par pure conscience professionnelle, définition de Flaubert en anglais.
The New Encyclopedia Britannica, founded 1768, 15e édition. Flaubert, Gustave. Beurs, décembre 12, 1821, Rouen, France. Dez, mai 8, 1880, Croisset. Novelist regarded as the prime mover of the realist school of French literature and best known for his masterpiece, Madame Bovary, 1857, a realistic portrayal of bourgeois life, which led to a trial on charge of the novel's alleged immorality.
Nuit de jeudi, 1h. Une vieille idée m'est revenue. Il faudrait que, dans tout le cours du livre, il n'y eut pas un mot de mon cru. Alors ça, c'est une phrase de Flaubert dans une lettre à Louise Collet, qui doit dater des années 50.
Jacques-Henri Michaud.
Et c'est une phrase qui m'a intéressé pendant toute ma vie, parce que c'était l'idée de l'impersonnalité, qu'on retrouve ensuite dans Flaubert... Dans le Flaubert du Dictionnaire des idées reçues, où il choisit l'ordre alphabétique. Donc le propos d'un livre écrit en somme d'après Flaubert, c'était ça. C'était choisir un ordre alphabétique, c'est-à-dire sans hiérarchie, et avec un certain nombre de phrases qui ne sont pas de moi, qui sont des phrases, des bruits médiatiques. Arriver à partir de cette impersonnalité-là, cette généralité des stéréotypes, cette généralité des choses qu'on entend toujours et qui font un peu consensus, d'arriver à un livre singulier, en quelque sorte. Singulier à force d'impersonnalité. C'était le propos du livre. Au début, je ne voulais faire que une sorte de répertoire alphabétique des bruits médiatiques. Et ensuite, j'ai coupé ça de citations qui sont aussi du côté de l'impersonnalité. Et de notes à l'intérieur desquelles l'écriture est complètement classique et n'est pas non plus une écriture personnelle. Voilà. Alors, l'autre livre de Flaubert, évidemment, qui m'intéresse beaucoup, c'est Bouvard et Pécuchet. Bouvard et Pécuchet qui est présenté comme une sorte d'épopée de la bêtise, qui est plutôt que de la bêtise, parce que les personnages ne sont pas peut-être aussi bêtes que Flaubert ne le dit ou que d'autres le disent. La bêtise consisterait à s'emparer du savoir sans aucune méthode. Faire une sorte de traversée des savoirs sans savoir exactement où l'on va, et ces expériences-là se terminent régulièrement par des ratages spectaculaires et bouffons. Mais en réalité, à la fin du livre, il y a des phrases tout à fait intéressantes qui sont d'ailleurs très connus, enfin je le cite quand même. Quand on dit de Bouvard et Pécuchet, alors une faculté pitoyable se développa dans leur esprit, celle de voir la bêtise et de ne plus la tolérer. Des choses insignifiantes les attristaient, les réclames des journaux, le profil d'un bourgeois, une sotte réflexion entendue par hasard. Autrement dit, là, ils ont une position sur la bêtise de ce qu'ils entendent, c'est-à-dire qu'ils y échappent, en tout cas en partie. Mais dès le début du livre, il y a quelque chose qui est assez frappant. Dès le chapitre premier, il y a cette phrase qui est également connue. Et ayant plus d'idées, ils eurent plus de souffrance, qui est une sorte de réécriture de l'Ecclésiaste, l'idée que le savoir accroît la souffrance. Donc ce ne sont pas des personnages entièrement négatifs. Et ils vont copier. Ils étaient copistes au départ, ils se sont rencontrés, ils ont parcouru toutes sortes de savoirs, et à la fin, ils vont copier. Ils vont copier quoi ? Ils vont faire un sottisier. Hein, ils vont faire Ils vont copier un certain nombre de fragments qui se rencontraient dans des livres au cours de leur exploration non méthodique, mais ils sont à l'origine aussi. Queneau a fait dit ça dans plusieurs préfaces à Bouvard et Pécuchet. Il dit que ce sont eux, Bouvard et Pécuchet, qui sont en réalité les auteurs, enfin qui deviennent les auteurs du dictionnaire des idées reçues, ce dictionnaire alphabétique où Flaubert prend un certain nombre de termes et les démonte. Et c'était un projet qu'il avait très tôt, dès les années 40, qui était pratiquement achevé dans les années 50. Et on pense maintenant que ce dictionnaire des idées reçues aurait figuré dans la partie inachevée de Bouvard et Pécuchet. Et aurait eu Bouvard et Pécuchet comme auteur. Le livre qui a été publié en 98, l'ABC de la barbarie, est sous-titré Bréviaire des bruits. Alors ben, voilà, le bruit, ça peut être aussi le bruit de la rue, ou c'est le bruit de la bourse dans un film d'Antonioni qui s'appelle L'Éclipse, ou le bruit majeur, ça c'est le bruit dont tous les autres dépendent. Alors ces bruits-là, donc ces stéréotypes, ces clichés, c'est, les ranger par ordre alphabétique, c'est dans un certain sens ne pas les ranger. C'est-à-dire c'est accepter ce que Barthes appelle l'ordre millénaire et fou des lettres françaises. Ça veut dire aussi qu'il n'y a pas de hiérarchie. Si on adopte l'ordre alphabétique, on est hors dissertation, on est hors construction, on égalise les choses. Et c'est le lecteur qui pourra, lui, accommoder sur tel ou tel passage. Alors, simplement, à l'intérieur du livre, il y a quand même des coups de zoom, des coups de projecteur, des grossissements. C'est-à-dire que, sur le plan graphique, il y a des mots qui sont mis en relief. Par exemple, économie de marché, tout d'un coup, ça c'est en caractère très gras. Parce que, à la fois... je suis d'accord avec Michel Léris quand il définit, quand il glosse le mot hiérarchie comme rarchirie, hein, hiérarchie, rarchirie. En même temps, je n'arrive pas à être d'accord avec ce qu'on appellerait maintenant le tout culturel, où il s'agirait de mettre sur le même plan Björk et Beethoven, par exemple, au nom de tout ça se vaut. Donc, la notion d'hiérarchie, c'est une notion un petit peu, on est un peu sur le fil du rasoir, là, en réalité. Alors, pour revenir à l'alphabet, Sartre n'aimait pas du tout le dictionnaire des idées reçues de Flaubert, et il lui reprochait précisément l'ordre alphabétique. Et pour la raison de ce que je viens de dire, c'est-à-dire que lui, il aurait voulu qu'il y ait une hiérarchie. Ben, il n'y en avait pas. Il y avait cet ordre millénaire et fou, que j'aime beaucoup pour ma part.
Flaubert disait « Il me monte de la merde à la bouche, j'en veux faire une pâte dont je barberai le 19e siècle ». Et donc il me semblait que votre texte barbouillait lui aussi la fin du XXe siècle d'une pâte de merde médiatique.
Oui, alors c'est tout à fait ça, parce qu'il y a une phrase de Deleuze et Guattari dans leur « Qu'est-ce que la philosophie ?» Deleuze et Guattari disent ceci, « Le peintre ne peint pas sur une toile vierge, ni l'écrivain n'écrit sur une page blanche, mais la page ou la toile sont déjà tellement couvertes de clichés préexistants, préétablis, il faut d'abord effacer, nettoyer, laminer, même déchiqueter pour faire passer un courant d'air issu du chaos. » Alors, dans l'ABC, j'ai fait un peu le contraire. C'est-à-dire qu'au lieu que je les ai précisément exposés, ces stéréotypes, ces clichés, ces bruits, etc. Ce que montre d'abord Barnabé, puisque c'est l'auteur fictif de l'ABC, c'est très matériellement la page non nettoyée. La page non nettoyée, pleine de purin, comme disait Ponge, est couverte de clichés. Là, il y a une ressemblance avec Flaubert dans la mesure où il donne Bouvard et Pécuchet comme un livre de vengeance, un livre où il veut vomir quelque chose. Si on prend uniquement l'aspect liste parataxique comme ça, verticale des clichés, ça ressemble un peu, toute proportion gardée, à Bouvard et Pécuchet, c'est pas organisé en roman. Ça. Mais ça me fait penser à la phrase de Nietzsche sur le nihilisme de Flaubert, c'est-à-dire que Flaubert est féroce, est en rage. Moi, j'ai essayé d'entailler la liste de ces stéréotypes médiatiques, etc., qui nous envahissent et qui sont un obstacle à la pensée. J'ai entaillé ça par des prélèvements, par des fragments qui sont faits, qui proviennent d'un peu partout. qui sont pris dans une espèce d'encyclopédisme assez joué, d'ailleurs, des savoirs, puisque Barnabé, il connaît à peu près tout du 8e siècle avant notre ère au 20e siècle, que ce soit la littérature, la peinture, la philosophie, ça vient de Chine, ça vient d'Afrique, ça vient du Japon, etc. Donc, mais c'était une manière de... et là, l'ordre alphabétique le permet, parce que ces auteurs-là, ils viennent à... Le nom propre arrive très exactement à l'endroit requis par l'alphabet. Dans le, par exemple, dramatisation de l'événement, ça c'est un bruit. Vous avez ensuite la liste des films de Dreyer. Dramatisation, Dreyer, etc. Et c'est une manière qui est proposée au lecteur de sortir, d'avoir des sortes de clairières, de rafraîchissement et de désir exploratoire, de désir d'exploration. Par exemple, s'il y a des textes ou des titres de films ou des musiques qui l'intéressent, c'est l'idée, je vais partir en exploration, enfin voilà. Donc de ce point de vue-là, c'est anti-nihiliste, c'est-à-dire c'est pas, il ne s'agit pas de faire quelque chose qui soit du côté de la nausée, disons, quelque chose qui soit engloutissant, engluant une chose horrible enfin, dans laquelle on serait pris, mais de faire entrevoir d'autres mondes. De faire entrevoir d'autres mondes. Et puis dans les notes, puisque l'ouvrage est présenté comme posthume et édité par un ami de l'auteur qui est mort, dans les notes, il y a les notes, c'est le roman d'une amitié. Et là, cette notion d'amitié est couplée avec une notion de délicatesse. Ce sont trois individus dont l'un est mort qui travaillent chacun dans son secteur. Et ces notes-là, c'est ça, la fiction romanesque, si on peut dire, ou mini-romanesque, infra-romanesque. Ça consiste à... Il y a une idée barthésienne de Barthes que j'aime beaucoup, c'est l'idée de délicatesse. Voilà. Injecter, au fond, de la délicatesse dans les rapports amicaux, dans les rapports humains, dans les rapports de travail, qui fasse que le bas des pages, les notes, elles sont parfois longues, parfois très courtes, viennent comme une espèce de contre-feu, viennent contredire la partie stéréotypée du livre, la partie, voilà.
Ça fait une différence avec le dictionnaire de Flaubert, puisque le dictionnaire de Flaubert est beaucoup plus... Enfin, laisse-moi la place à la respiration, et que Flaubert en est mort presque étouffé.
Oui, oui, tout à fait, oui. Oui, il est mort, et, oui, il a fait une hémorragie cérébrale. Il a... Alors, il y a au moins, si j'ose dire, un point commun entre Flaubert et moi, si je peux m'exprimer ainsi, c'est que... c'est vrai que j'ai attribué à Barnabé un savoir qui n'est nullement le mien, un savoir encyclopédique, mais quand même, il a fallu que je fasse des recherches assez considérables. Ça m'a pris 4 ou 5 ans, là, en me servant d'encyclopédie, etc. Donc c'était un travail préliminaire. Et ensuite, il y a toujours une part d'arbitraire quand il s'agit de choisir tel auteur plutôt que tel autre, bien entendu. Mais là c'est quand même mon camarade Flaubert, si j'ose dire, qui va dépouiller. Enfin, la différence, c'est que ce que fait Flaubert dans Bouvard et Pécuchet, c'est qu'il va à la recherche de bêtises, de textes qui se contredisent, de n'importe quoi, pseudo-scientifique, etc. Et là, il a une espèce de rage, enfin, de dégoût. C'est ça. Je dis que dans l'ABC, ça fonctionne plutôt à l'envers. C'est-à-dire que les savoirs multiformes et qui peuvent être source de plaisir sont des choses qui viennent en rupture. En rupture, comme je l'ai dit tout à l'heure,
Et on voyait tout de suite la cheminée, le portrait du père Bouvard. Ils avaient été sur les rives de l'Orne choisir des granites, les avaient cassés, numérotés, rapportés eux-mêmes dans une charrette. Puis ils avaient joint les morceaux avec du ciment en les accumulant les uns par-dessus les autres. Et au milieu du gazon se dressait un rocher, pareil à une gigantesque pomme de terre.
Dictionnaire de notre temps. Hachette, 1989. Le Petit Larousse en couleur, rubrique Culture générale, 1991. Le Robert illustré, 1996.
Bon, l'intérêt de l'ordre alphabétique aussi, si j'y reviens, c'est que ça permet aux lecteurs de déterminer leur propre ordre de lecture. Ils sont déjà libres dans l'espace de la page, c'est-à-dire qu'ils peuvent accommodé, si j'ose dire, soit sur les stéréotypes, soit sur les notes, soit il y en a qui lisent tout, hein, bien entendu, mais ils peuvent aussi prendre une lettre et puis une lettre à la fin, puis revenir à la lettre B, puis passer à la lettre F, etc., sans problème particulier. Et ça, j'aime bien cette liberté du lecteur. J'aime bien cette liberté du lecteur. Cette liberté, on est à la fois pris dans l'ordre alphabétique, mais dans la mesure où on n'est pas obligé de prendre la succession telle qu'elle se présente, on a une marge de manœuvre, on a une marge de liberté. Et bon, cette marge de liberté, elle est précieuse, je crois.
Quid 2001. 293b. Principaux personnages de la littérature française. Flaubert G. Bouvard et Pécuchet. Utopiste pédant et ignorant. Madame Bovary. Emma Bovary, petite bourgeoise romantique. Homais, humaniste pédant et ignorant. L'éducation sentimentale. Frédéric Moreau. Madame Arnoux. 298b. Flaubert, Gustave. Romancier. 12, 1821, 8, 5, 1880. Biographie. Père médecin. Grandit à l'Hôtel Dieu de Rouen. Études contrariées. Épilepsie. 1836, épris de Elisa Schlesinger, plus âgée de 11 ans, sa maîtresse en 1842. 1844, première crise d'épilepsie. 1846-56, liaison avec Louise Collet, 1810-76, demi-mondaine et femme de lettres. 1856, se retire auprès de sa mère à Croissé, près de Rouen, veillant à l'éducation de sa nièce. 1857, procès en correctionnel pour l'immoralité de Madame Bovary, acquittée. 1875, se dépouille pour sauver le mari de sa nièce de la faillite.
Flaubert, père de la modernité.
Là, je laisse les Flaubertiens décider si Flaubert est le père de la modernité. Non, simplement, ce qui est certain sur le problème qui nous concerne, c'est que l'idée de s'en prendre aux stéréotypes, aux clichés, aux poncifs, aux idées reçues, et aux lieux communs, tout ça, il y a quelques variations de sens, mais pas fondamentales, c'est une idée de la deuxième moitié du 19e siècle. Et Flaubert a été effectivement... Il y a eu d'autres dictionnaires, mais c'était des dictionnaires des poncifs de la conversation, etc. Flaubert va plus loin. Il y a une portée critique chez Flaubert qu'il n'y a pas dans d'autres textes. De ce point de vue-là, la méfiance par rapport à un langage qui serait solidifié, congelé. Un stéréos, c'est Barthes qui rappelle que stéréos, ça veut dire solide, et stéréotype, c'est un terme d'imprimerie au moment où on passe des caractères mobiles aux caractères liés. C'est de pointer cet aspect congelé, la gelée qui empêche l'exercice de la pensée. C'est mettre en garde, c'est dire voilà ce qu'on aurait tendance à dire, ça regarde tous. Nous pourrions avoir tendance à employer ce langage, plus ou moins, donc, c'est-à-dire essayer de vous défier des idées toutes faites. Dans notre modernité, si on prend la télévision aujourd'hui, vous ne pouvez pas ouvrir une fois la télévision ou la radio sans entendre un bras de fer. Un bras de fer, ça peut être entre Israël et la Palestine, mais ça peut être aussi entre Johnny Hallyday et son ancienne épouse. Ouais. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a conflit, qu'on l'appelle toujours bras de fer, on ne peut plus penser la réalité de l'événement. Il y a un autre terme qui est la grogne. Il y a la grogne des éboueurs, la grogne des paysans. En plus, c'est une manière, on uniformise tout ça. Et en même temps, quand on dit la grogne, c'est l'idée que ce n'est pas vraiment complètement sérieux. Il y a des gens qui sont un peu grognons, un peu bourrus, protestent. Voilà. Donc c'est une manière de ne pas s'intéresser sur les fondements réels de leur motivation. Il y en a d'autres, le feu vert, etc. Alors, bras de fer.
Et perdre la modernité aussi un peu. Hein. On ne peut pas parler d'un auteur sans dire que c'est perdre la modernité.
Exact, si on dit perdre la modernité, on est déjà dans les stéréotypes, alors il faut faire attention.
Nous ferions bien de voir à la ferme s'il n'est pas arrivé quelque chose.
Document à caractère scolaire et pédagogique. 1. Thèse soutenue sur Flaubert. Les sciences médicales dans Bouvard et Pécuchet de Gustave Flaubert. Flaubert pour une orthopédie revue et corrigée. L'Orient dans Salammbô de Gustave Flaubert, la construction d'un imaginaire mythique. Flaubert et l'Antiquité, itinéraire d'une passion. Flaubert et la Grèce. Flaubert et l'espace. Flaubert et le théâtre. Flaubert et la crise du langage. Flaubert et l'autre. Communication littéraire et dialectique intersubjective. La communauté et l'autre dans Bouvard et Pécuchet de Flaubert. Roman et éducation, études génétiques de Bouvard et Pécuchet de Flaubert. L'encyclopédisme dans Bouvard et Pécuchet de Gustave Flaubert, études morphologiques, sémantiques, syntaxiques du vocabulaire. Bouvard et Pécuchet et la littérature, études génétiques et critiques du chapitre 5 de Bouvard et Pécuchet de Gustave Flaubert. Flaubert et la critique littéraire française du XXe siècle, essai de synthèse. La notion de grotesque et l'image de la grotte chez Flaubert. Approche stylistique des œuvres de jeunesse de Flaubert dans l'esprit de la méthode de Léo Spitzer. Gustave Flaubert devant l'échec. La tentation religieuse de Flaubert du culte de la Madone au Dieu inconnu. La Madone et la prostituée dans l'éducation sentimentale de Flaubert. Image de la femme infernale dans la littérature romantique de Balzac à Flaubert. Des liseuses en péril, les images de lectrices dans les textes de fiction de La Précieuse de l'abbé de Pure à Madame Bovary de Flaubert, 1656-1856.
C'est toujours le ce problème, oui, de l'éternelle jeune fille en même temps, qui fait qu'on a l'impression qu'il faut tuer, les hommes doivent tuer le père pour réussir à avancer, mais c'est comme s'il fallait qu'on tue l'Emma Bovary qui est en nous pour réussir à dépasser quelque chose.
Flaubert plus tard, la suite, question. Qu'est-ce qu'il reste de Flaubert ? À l'école, dans le dictionnaire, dans les livres et dans l'art, dans plusieurs têtes, à Croisset en Normandie. Réponse 3, par Chloé Delhomme. Comment faire pour tuer une Emma Bovary ? Éducation, exercice pour bien comprendre Madame Bovary. Éducation, suite. Dans le but d'être plus érudit, nous allons suivre un cours rue d'Ulm sur la ponctuation chez Flaubert. Éducation, fin. Pendant ce temps-là, Bouvard et Pécuchet réfléchissent à la manière d'instruire un enfant et particulièrement à la nécessité de mesurer les crânes. Précision, le passage le plus érotique chez Flaubert est-il vraiment érotique ? Précision, Chloé Delhomme est écrivain, son premier livre s'appelle « Les mouflettes d'Atropos », son prochain livre s'appelle « Le cri du sablier ». Et pendant ce temps, en bas, dans la cour, des hommes donnent des coups de marteau et poussent des cris inarticulés.
Je suis tombée complètement par hasard sur Emma Bovary qui était dans la bibliothèque familiale, qui était pourtant pas très riche. Et en fait, ça a été assez terrible. C'était le trauma absolu. Je l'ai lu, je l'ai fini dans la nuit. J'étais en larmes à la fin. C'était épouvantable. Et donc, j'ai commencé à aller au lycée, à raconter mes émois. Tout le monde s'est vraiment moqué de moi, en m'expliquant que c'était pas très intéressant quand même de bloquer à 14 ans là-dessus. Et dans la même semaine, j'ai quand même dû pour l'école lire l'Assommoir. Et j'étais confrontée à une autre grosse héroïne, en fait, de ce siècle-là, et Gervaise, ça n'a pas du tout collé, je la trouvais complètement inintéressante. C'était sordide, alors que finalement, bon, c'est quand même aussi un livre très important et une figure très importante. Et en fait, ça m'a assez contrariée, tout ça. Donc, régulièrement, j'ai relu les deux pour vérifier si j'avais quand même déjà conscience. À l'époque, Emma était une figure assez problématique pour une jeune femme moderne, dans la mesure où c'est quand même un peu la petite dinde qui est pas très très maline et puis qui bloque comme ça dans ses délires romantiques. Et ça me posait déjà à ce moment-là un assez gros problème. Et puis c'est vrai que je l'ai relu régulièrement, vraiment tous les deux ans quasiment. Et couplé tout le temps avec l'Assommoir. Bon, le rapport est effectivement uniquement lié à cette histoire-là, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et j'ai fini, peut-être vers mes 23 ou 24 ans, par toujours pleurer définitivement sur la fin d'Emma Bovary et par souhaiter âprement la mort de Gervaise sous l'escalier. Et là, je me suis dit que j'avais absolument aucune conscience politique, que c'était une pure catastrophe, que je m'en sortirais jamais dans la vie. Et c'est vrai que c'est très bizarre, parce que c'est la figure d'Emma Bovary, vraiment un personnage qui continue encore de me poser un vrai problème, parce que c'est l'archétype absolu de la chèvre émissaire, en fait. Et c'est assez inquiétant, je sais pas, j'ai quand même 28 ans maintenant, de continuer à avoir une espèce d'affection profonde pour ce qui incarne absolument tout ce que je ne supporte pas. Et en même temps, en tombant complètement, finalement, dans les griffes de ce que Flaubert... Enfin, c'est terrible, parce que c'est quand même des plus gros misogynes que l'histoire et la littérature française aient pu porter. Et en même temps, il a réussi à mettre le doigt sur, bon, effectivement, des choses universelles, etc. Mais en même temps, le fait qu'il soit aussi misogyne, on n'enlèvera pas l'idée que c'est quelque chose qui est un peu contre nous. Et oui, c'est assez étrange. Elle accumule tous les clichés qui sont très très contemporains finalement. Enfin, ça va jusqu'à évidemment ses rapports avec Monsieur Lheureux. Elle est absolument tous les archétypes qu'on retrouve chez vraiment les figures de la chèvre émissaire. Même quand elle est livrée à elle-même, ce que Solana s'appellerait des activités épanouissantes, alors qu'elle pourrait enfin, elle est même pas foutue de prendre son piano pour faire autre chose que essayer de rentrer dans les clichés. Du bien faire, du bien dire, du bien se tenir. Et ouais. Quand on reste juste dans des archétypes d'héroïne avec le problème de l'identification, c'est très, très agaçant de devoir avoir ce rapport affectif quasiment à Emma, parce qu'elle ne le mérite pas. Et c'est parce qu'elle ne le mérite pas, finalement, qu'on se retrouve piégé.
Lagarde et Michard, du 19e siècle, page 460. 1. L'analyse psychologique. Petit a. Dégager les principaux traits du caractère de cette jeune fille. Petit b. Montrer que cette psychologie s'explique, du moins en partie, par l'enfance d'Emma et par le milieu où elle vit. Petit c. En quoi le tempérament que nous découvrons ici exercera-t-il une influence déterminante sur la vie de Madame Bovary? 2. Le romantisme. Petit a. Relevez avec précision tous les thèmes romantiques que Flaubert a voulu grouper dans ce passage. Élucidez les allusions les plus évidentes. Petit b. À quels indices reconnaît-on les intentions satiriques de l'auteur?
Alors, il n'y a pas très longtemps, quand j'ai su que j'allais venir faire une petite intervention là-dessus dans cette émission, je me suis fait passer pour une étudiante en sociologie et je suis allée errer dans les cafés. Ça m'arrive assez souvent quand je me pose des questions sur ce que pensent les adolescentes. Parce que je ne peux pas les prendre comme ça en disant « expliquez-moi ce que vous faites dans la vie ». Et je leur ai posé une succession de questions sur leur figure féminine favorite, pour qui elles aimeraient être, etc. Et en fait, ça a donné des réponses assez bizarres, parce que spontanément, dans les personnages vivants, elles me répondaient effectivement Sophie Marceau et Sharon Stone, ce qui m'a quand même laissé un petit peu pantois. Et dans les figures littéraires, je leur ai donné bon, quand même un panel, mais assez large, hein, Calais de Merteuil, en passant par certains personnages même plus contemporains. Et systématiquement, elles me répondaient Emma Bovary. Alors après, je discutais avec elles et je constatais que les pauvres, elles étaient exactement... mais dans le même cas que moi, c'était un personnage qu'elles trouvaient quand même complètement idiote. C'est une fille qui c'est dramatique pour elles. Mais elles sont tout de même fascinées. Elles se retrouvent vraiment complètement dedans. Ça va effectivement du « je rêve au prince charmant » à être engluée comme ça dans un ennui profond. Mais en même temps, avec cette espèce de rapport à la société de consommation complètement frénétique pour combler le vide, etc. Et c'est toujours très, très contemporain.
4. Profit personnel. Précisez le sens de cette expression d'après le contexte. 5. Montrez l'utilité de ces détails pour la suite de ce passage. 6. Indiquez la nuance introduite par ce passage à la deuxième personne. 7. Commentez le choix de ce verbe. 8. Confère les sentiments d'Emma à l'Église. Les comparaisons de fiancés, d'époux, d'amants célestes et de mariage éternel qui reviennent dans les sermons lui soulevaient au fond de l'âme des douceurs inattendues.
Le rapport à l'homme, est sidérant. C'est même pas représentatif de son siècle, parce que les héroïnes de Balzac s'en sortent pas comme ça avec les hommes. C'est croire que l'homme peut apporter le tout, peut la sauver de... C'est un rapport passif vraiment, vraiment à l'autre sexe. qui est excessivement dégradant. À la rigueur, Rodolphe, je peux comprendre, parce que bon, il y a quand même tout ce qui va autour. Mais le personnage de Léon, c'est pas possible. Enfin, je veux dire, elle a affaire quand même à une espèce de ce qui serait aujourd'hui une sorte de Minet de la Sorbonne. Et elle s'en tiche comme ça, parce qu'elle prend le premier venu. C'est vraiment, je prends le corps de l'homme pour. Ça devient le creuset à fantasme pour s'échapper, en restant toujours passive. Et voilà, c'est. Flaubert est d'une espèce de complaisance complètement mais sordide à la traîner comme ça. C'était assez épouvantable. Chez Balzac, Balzac, pour moi, est vraiment un grand féministe. Il arrive à vraiment montrer ce que c'est vraiment que la femme au 19e, quels sont leurs choix de vie, quels sont leurs. Mais surtout leurs forces, quoi, vraiment. Et puis surtout, quand elles sont bêtas, il y a toujours une femme intelligente dans le livre qui explique, qui laisse supposer en tout cas que c'est pas comme ça. Mais il n'est pas misogyne, ça change absolument tout. Les autres femmes dans Madame Bovary, c'est des figures archi secondaires, mais elles sont toujours effroyables de bêtises. C'est toujours des et qu'on me dise pas que c'est parce que c'est la province normande, etc. Parce que chez Balzac, il y a aussi ça. Mais elles ont toujours une forme à ce moment-là de bon sens ou d'intelligence ou de les héroïnes balzaciennes répondent pas à ces clichés-là. Elles prendraient le mari pour en faire quelque chose. Elles se battraient beaucoup plus. Et si elles étaient écrasées sous le poids de l'ennui, elles auraient une manière de se suicider qui serait beaucoup plus prompte déjà. Et en tout cas, elles arriveraient à traîner. Le mari responsable de la chute, elle se vengerait beaucoup plus. Emma se venge pas. Son égoïsme est tel qu'elle, comme il est toujours lié à une sottise profonde, elle a même pas idée de se venger. Elle met pas. Enfin, la mort de Charles est même pas voulue. Enfin, c'est assez incroyable ça d'ailleurs que ce soit juste une conséquence et pas un acte décidé volontaire. Bon, très bien. Ma vie est foutue, j'ai épousé par ma faute soit un imbécile, mais qu'il paye au moins, qu'il paye, et même pas.
3. Encyclopédie Millennium. L'Odyssée du savoir. Nathan. Un ouvrage de référence pour la famille. Un outil précieux pour l'école.
Mais avant d'instruire un enfant, il faudrait connaître ses aptitudes. On les devine par la phrénologie.
Bouvard et Pécuchet.
Ils s'y plongèrent, puis voulurent en vérifier les assertions sur leur personne. Bouvard présentait la bosse de la bienveillance, de l'imagination, de la vénération et celle de l'énergie amoureuse, vulgo érotisme.
Sartre considérait que dans toutes les pages de littérature à connotation érotique que la littérature française est portée, c'était le passage où Emma enlève son gant dans l'hirondelle qui était le plus troublant et le plus chargé. Presque pornographiquement, tellement il y avait une sorte d'émotion qui s'en dégageait.
Et toi ?
Ah non, pas du tout. Je crois que d'ailleurs que j'avais même pas remarqué ce passage. C'est une fois qu'on m'a rapporté l'anecdote que je suis allée le relire et non, toujours pas. Non. Et d'ailleurs, j'ai jamais trouvé que les scènes où elle est avec Léon puissent même lui procurer à elle une jouissance quelconque ou même. La moindre excitation, c'est pas possible. Ce garçon est beaucoup trop mou. C'est un Peter Pan en fait. Voilà, Léon est un Peter Pan, il est temps de le dire. Donc c'est pas possible. C'est vraiment pas possible, pas du tout.
Alors Flaubert perd de la modernité ?
Non. Non, c'était. Enfin, oui, à l'époque, oui, bien sûr. Maintenant, je crois qu'il y a quand même eu. Il y a eu avant, non, c'est pas vrai. Il y a eu largement avant, il y a toujours eu avant. Et non, c'est complètement.
Comme il faisait une chaleur de 33 degrés, le boulevard Bourdon se trouvait absolument désert. Plus bas, le canal Saint-Martin, fermé par les deux écluses, étalait en ligne droite son eau couleur d'encre. Il y avait au milieu un bateau plein de bois et sur la berge, deux rangs de barriques. Au-delà du canal, entre les maisons que séparent des chantiers, le grand ciel pur se découpait en plaques d'outre-mer et sous la réverbération du soleil, les façades blanches, les toits d'ardoise, les quais de granit éblouissaient. Une rumeur confuse montait du loin dans l'atmosphère tiède. Et tout semblait engourdi par le désœuvrement du dimanche et la tristesse des jours d'été. Deux hommes parurent. L'un venait de la Bastille, l'autre du Jardin des Plantes. Le plus grand, vêtu de toile, marchait le chapeau en arrière, le gilet déboutonné et sa cravate à la main. Le plus petit, dont le corps disparaissait dans une redingote marron, baissait la tête sous une casquette à visière pointue. Quand ils furent arrivés au milieu du boulevard, ils s'assirent à la même minute sur le même banc. Pour s'essuyer le front, ils retirèrent leur coiffure, que chacun posa près de soi, et le petit homme aperçut écrit dans le chapeau de son voisin « Bouvard ». Pendant que celui-ci distinguait aisément dans la casquette du particulier en redingote le mot « Pécuchet ».
Donc nous nous trouvons sur le boulevard Bourdon. Il fait une chaleur de un peu moins de 33 degrés. Le boulevard Bourdon, c'est l'endroit où se rencontrent Bouvard et Pécuchet par une chaleur de 33 degrés. Et pour ma part, bien qu'il fasse un peu moins chaud, j'ai l'impression déjà d'être en voie de bouvardisation. Peut-être que vous pouvez nous dire pourquoi est-ce qu'on se bouvardise si bien sur le boulevard Bourdon.
Peut-être que on est pris avec les souvenirs qu'on a de Bouvard et Pécuchet dans, dès le début, une répétition, quelque chose qui est pris dans une sorte de rumeur. Comme il faisait une chaleur de 33 degrés, on est peut-être plus dans la répétition que dans la comparaison. 33, répète le chiffre 3, et Boulevard Bourdon nous fait déjà entendre une rumeur, donc on est déjà pris dans la parole du stéréotype.
Flaubert, toujours plus tard, on se bouvardise assis sur un banc. Des oiseaux chantent, des enfants en cours d'éducation physique passent en courant. Bouvard et Pécuchet s'assoient à la même minute sur le même banc. Question, qu'est-ce qu'il reste de Flaubert ? Réponse 4, par Didier Malgore. Précision, Didier Malgore a fait une thèse sur Bouvard et Pécuchet. Il a déjà rencontré plusieurs bouvardiens et pécuchéistes. Pendant ce temps, Bouvard et Pécuchet s'émerveillent de leur rencontre et bouvardisent tout alentour.
Ils sont copistes, mais à deux doigts de leur retraite. Et leur projet est non plus de copier, mais de ressaisir la parole, le savoir de l'époque, les divers discours de l'époque, plus que les savoirs, en fait. Hein, puisque c'est Bouvard et Pécuchet, c'est plus un travail sur les discours que sur les savoirs. Et ils vont arpenter tous les champs du savoir de l'époque. Ils vont répéter et recopier tous les discours. Et à la fin, se rendant compte que le réel résiste à la pensée du réel ou à la représentation du réel, ils vont décider de copier, tout simplement. C'est-à-dire de se cantonner au discours et non pas à la connexion entre le discours et la réalité.
Qu'est-ce qu'ils copient à la fin ?
Oui, c'est une très belle fin, enfin très, très émouvante, puisque justement le volume dont on parle tout le temps, le dictionnaire des idées reçues, le catalogue des idées chic, etc., c'est la seule chose qui n'a pas été mise en forme par Flaubert pour cette deuxième partie de Bouvard et Pécuchet. Mais on a tout le matériau de cette deuxième partie, puisque c'est des phrases lues, entendues par Flaubert et ses amis, qu'ils recopiaient depuis leur jeunesse. Donc la partie manquante à l'œuvre de Flaubert, dont on n'a que des bribes, c'est en fait ce sur quoi il a travaillé toute sa vie. Œuvre qui compile les stéréotypes, les idées chics, les aberrations des discours scientifiques, ecclésiastiques et autres. Et ce qui est le plus étonnant, c'est le mode de construction qu'il envisage, puisque ce qui est visé, c'est l'égalité de tout, du bien, du mal, du caractéristique et du particulier. Et il va compiler tout ce qu'il a noté d'idiot, de bête, de stéréotypé, Mais ce qui est assez fort, je crois, c'est que le mode de connexion entre toutes ces phrases ne tient pas compte ni de la logique, ni de l'analogie, ni de l'induction. Tout est à la suite. Et il dit à un moment d'ailleurs, lorsque deux phrases se contredisent, comment faire ? Mais copions l'une à la suite de l'autre.
Un ami de Dumouchel, professeur de philosophie, leur envoya une liste d'ouvrages sur la matière. Ils travaillaient à part et se communiquaient leurs réflexions. D'abord, qu'est-ce que le beau ? Pour Schelling, c'est l'infini s'exprimant par le fini, pour Reid, une qualité occulte, pour Jouffroy, un fait indécomposable, pour De Maistre, ce qui plaît à la vertu, pour le professeur André, ce qui convient à la raison. Et il existe plusieurs sortes de beaux. Un beau dans les sciences, la géométrie est belle, un beau dans les mœurs, on ne peut nier que la mort de Socrate ne soit belle. Un beau dans le règne animal. La beauté du chien consiste dans son odorat. Un cochon ne saurait être beau vu ses habitudes immondes. Un serpent non plus, car il éveille en nous des idées de bassesse. Les fleurs, les papillons, les oiseaux peuvent être beaux. Enfin, la condition première du beau, c'est l'unité dans la variété. Voilà le principe. Cependant, dit Bouvard, deux yeux louches sont plus variés que deux yeux droits et produisent moins bon effet, ordinairement. Ils abordèrent la question du sublime. Certains objets sont d'eux-mêmes sublimes, le fracas d'un torrent, des ténèbres profondes, un arbre battu par la tempête. Un caractère est beau quand il triomphe et sublime quand il lutte. « Je comprends, dit Bouvard, le beau et le sublime, le très beau. Comment les distinguer ?»« Au moyen du tact, répondit Pécuchet. Et le tact, d'où vient-il ? Du goût. Qu'est-ce que le goût ? On le définit un discernement spécial, un jugement rapide, l'avantage de distinguer certains rapports. » Enfin, le goût, c'est le goût, et tout cela ne dit pas la manière d'en avoir. Il se perdait ainsi dans les raisonnements, Bouvard de moins en moins croyait à l'esthétique. Si elle n'est pas une blague, sa rigueur se démontrera par des exemples. Or, écoute. Et il eut une note qui lui avait demandé bien des recherches. Bouhour accuse Tacite de n'avoir pas la simplicité que réclame l'histoire. Monsieur Drault, un professeur, blâme Shakespeare pour son mélange du sérieux et du bouffon. Nisard, autre professeur, trouve qu'André Chénier est comme poète au-dessous du XVIIe siècle. Blair, Anglais, déplore dans Virgile le tableau des harpies. Marmontel gémit sur les licences d'Homère. Lamotte n'admet point l'immoralité de ses héros. Vida s'indigne de ses comparaisons. Enfin, tous les faiseurs de rhétorique, de poétique et d'esthétique me paraissent des imbéciles. « Tu exagères, » dit Pécuchet. Des doutes l'agitaient, car si les esprits médiocres, comme l'observe Longin, sont incapables de fautes, les fautes appartiennent au maître et on devra les admirer ? C'est trop fort. Cependant, les maîtres sont les maîtres. Il aurait voulu faire s'accorder les doctrines avec les œuvres, les critiques et les poètes, saisir l'essence du beau. Et ces questions le travaillèrent tellement que sa bile en fut remuée. Il y gagna une jaunisse.
Vous avez organisé en 1998 à l'École des Beaux-Arts de Montpellier un colloque sur la bêtise. On imagine qu'il a été assez curieux, assez déstabilisant pour les gens à qui vous avez demandé des interventions, de devoir parler dans un colloque qui est censé être le lieu où l'intelligence se déploie, du thème de la bêtise.
Oui, c'était assez étonnant comme proposition, apparemment.
Didier Malgor.
Ces gens sont censés, tout le monde, même les gens qui assistent, étaient censés... être intelligent ou assister au spectacle de l'intelligence. Mais le titre du colloque de la bêtise, de point, l'art et la critique de l'art après Bouvard et Pécuchet, voulait mettre en évidence non pas une bêtise qui serait extérieure à l'intelligence, mais j'avais envie de réfléchir à cette nécessité à un moment qu'a l'intelligence de se nourrir de la bêtise. C'est-à-dire comment on fait quand on est pris dans un discours stéréotypé, comment on fait quand on a la sensation d'être parlé par une parole qu'on ne contrôle pas. Et c'est quand même un sujet extrêmement douloureux et prégnant. J'avais fait référence à Musil, à Blanchot, à Barthes, qui toute leur vie ont traîné comme Bouvard et Pécuchet, comme une sorte de boulet, de remords, d'horizon. Hein.
Pour revenir à Flaubert, à propos de la bêtise, j'ai souvent l'impression que Flaubert a une double position par rapport à la bêtise. Premièrement, la bêtise, ce serait ce contre quoi il faut lutter. Dès qu'il est enfant, dans sa correspondance, on s'aperçoit qu'il a déjà repéré le phénomène de la bêtise des bourgeois de Rouen, et qu'il dit que c'est la chose contre laquelle il faut lutter. Et dans son travail infini du style, on a l'impression qu'il fait ce travail du style pour lutter contre la bêtise. Et d'un autre côté, sa position est beaucoup plus ambiguë quand, vers la fin de sa vie, en particulier avec Bouvard et Pécuchet et avec le dictionnaire des idées reçues, il dit qu'il va élever un monument à la bêtise. En particulier, pour le dictionnaire des idées reçues, il écrit dans sa correspondance qu'il faudrait rattacher le public à la convention générale, de telle manière finalement que le public ne sache pas si on se fout de lui, oui ou non. C'est-à-dire qu'il va élever ce monument à la bêtise qui en même temps était la chose contre laquelle il voulait absolument lutter.
Oui, c'est là qu'on voit que Flaubert est le dernier écrivain romantique et le premier écrivain moderne. Il sait très bien qu'on ne peut plus être dans les marges, comme les romantiques, un phare, qu'on peut se détacher de cette bêtise. Il sait que s'il faut lutter contre, il faut lutter avec. C'est-à-dire comment on travaille avec et contre la bêtise. Comment on sort de la bêtise en étant dedans, quoi. Voilà son histoire. Et donc, la solution de la copie, c'est peut-être ça. C'est peut-être sortir de la bêtise, donc construire un monument à la bêtise, une commémoration de cette bêtise, par un excès de bêtise, par cet infini de la copie, par cette immense compilation de stéréotypes d'époque.
Il y a d'abord le genre mélancolique et romantique qui se signale par des immortels, des ruines,
Bouvard et Pécuchet,
des tombeaux,
Hubert Vieille,
et un ex-voto à la Vierge indiquant la place où un seigneur est tombé sous le fer d'un assassin. On compose le genre terrible avec des rocs suspendus, des arbres fracassés, des cabanes incendiées, le genre exotique en plantant des cierges du Pérou, pour faire naître des souvenirs à un colon ou à un voyageur. Le genre grave doit offrir, comme Ermenonville, un temple à la philosophie. Les obélisques et les arcs de triomphe caractérisent le genre majestueux. De la mousse et des grottes, le genre mystérieux. Un lac, le genre rêveur. Il y a même le genre fantastique, dont le plus beau spécimen se voyait naguère dans un jardin wurtembergeois, car on y rencontrait successivement un sanglier, un ermite, plusieurs sépulcres, et une barque se détachant d'elle-même du rivage pour vous conduire dans un boudoir où des jets d'eau vous inondaient quand on se posait sur le sofa. Devant cet horizon de merveille, Bouvard et Pécuchet eurent comme un éblouissement.
Vous parlez aussi de quelque chose qui m'a beaucoup touchée dans votre intervention dans le colloque que vous avez organisé, qui est la souffrance et la colère de Flaubert face à la bêtise.
Tout à l'heure, je disais que beaucoup d'écrivains ont porté comme un boulet Bouvard et Pécuchet. Je pense que c'est le rapport à cette bêtise qu'on porte. Et pour Flaubert, c'est en effet douloureux parce que la bêtise nous dessaisit de soi. Parce que, quand je disais tout à l'heure qu'il était le dernier écrivain romantique, je crois que cette bêtise nous renvoie au contraire de la caractéristique de l'écrivain ou du créateur, c'est-à-dire la singularité, l'originalité, quelque chose qui serait un peu en avant ou un peu dans les marges. Flaubert a cette conscience douloureuse qu'il fait un travail dur, besogneux d'écriture et qu'à la fois chaque mot lui échappe. C'est ce qu'il disait aussi à propos de Bouvard et Pécuchet. Il dit qu'il avait envie que le lecteur ne puisse plus ouvrir la bouche sans avoir la sensation, la certitude de dire une bêtise ou un stéréotype.
Cependant, plusieurs d'entre nous possèdent une trompe aromale, c'est-à-dire derrière le crâne, un long tuyau qui monte depuis les cheveux jusqu'aux planètes et nous permet de converser avec les esprits de Saturne. Les choses intangibles n'en sont pas moins réelles, et de la Terre aux astres, des astres à la Terre, c'est un va-et-vient, une transmission, un échange continu. Alors le cœur de Pécuchet se gonfla d'aspirations désordonnées, et quand la nuit était venue, Bouvard le surprenait à sa fenêtre, contemplant ces espaces lumineux qui sont peuplés d'esprits. Swedenborg y a fait de grands voyages, car en moins d'un an, il a exploré Vénus, Mars, Saturne et 23 fois Jupiter. De plus, il a vu à Londres Jésus-Christ, il a vu Saint-Paul, il a vu Saint-Jean, il a vu Moïse et en 1736, il a même vu le jugement dernier. Aussi nous donne-t-il des descriptions du ciel. On y trouve des fleurs, des palais, des marchés et des églises, absolument comme chez nous. Les anges, hommes, autrefois, couchent leurs pensées sur des feuillets, devisent des choses du ménage ou bien de matière spirituelle, et les emplois ecclésiastiques appartiennent à ceux qui, dans leur vie terrestre, ont cultivé l'écriture sainte. Quant à l'enfer, il est plein d'une odeur nauséabonde, avec des cahutes, des tas d'immondices, des personnes mal habillées.
Chez Flaubert, toutes les stratégies mises en place visent à une sorte de disparition du singulier, une disparition de lui-même. Lorsqu'il parle de la recherche d'un style, d'une forme absolue du style, absolu veut dire détaché, d'un livre sans attache extérieure, on n'est plus du tout dans cette idiotie qui pourrait avoir, ou cette bêtise qui pourrait être la marque d'une singularité, d'une exception. Félicité, dans un cœur simple, est à la fois bête et sainte. Et ça, c'est peut-être une version heureuse, pas de Flaubert, mais de Bouvard et Pécuchet. C'est vrai que tous les phénomènes de disparition de soi, ou disparition d'une forme de singularité, de subjectivité, est lié... où se fait par la répétition. On peut penser aux mantras, aux prières, à ce qu'on appelle la discipline en général. Répéter vise à disparaître comme une entité subjective pour rentrer dans une sorte d'espace de grâce. On peut aussi parler des techniques d'improvisation en danse ou en musique. On répète jusqu'à oublier, s'oublier pour qu'émerge... quelque chose qui est de l'ordre de la grâce. Le duende, par exemple, en tauromachie ou au flamenco, c'est un peu lié à ça, à une forme de répétition. Alors peut-être qu'il y a une version heureuse de Bouvard et Pécuchet qui est copions à l'infini et créons un espace de objectif où apparaîtrait, alors là, peut-être comme dans Félicité, une sorte de grâce, mais aussi dans Saint-Julien l'Hospitalier, une sorte de rédemption.
Et qu'est-ce qui se passe alors pour Félicité ?
Ben, elle voit dans son perroquet une apparition du Christ.
Alors, Flaubert perd de la modernité ?
Dernier écrivain romantique et premier écrivain de la fin de l'histoire et de la fin du sens et d'une pratique entêtée de l'écriture sans plus beaucoup d'enjeux. La copie est une pratique ancienne d'invention. Et je crois que c'est le statut de l'auteur qui est modifié par Flaubert et par tous ces artistes qui travaillent sur la copie. Et peut-être que Flaubert a initié, avant Duchamp, cette rupture avec une perception qu'a le public d'un artiste singulier. et singulier et original, et puis des artistes qui ont complètement intégré la leçon de Flaubert, c'est-à-dire que on est pris dans la redite et la copie, et que cette notion de singularité et de marge ne fonctionne pas. On peut penser aussi dans ces fils spirituels de Bouvard et Pécuchet à Kloski, qui a fait une pièce intitulée « Mille choses à faire », qui est un collage de messages publicitaires qui sont des injonctions de choses à faire. On est dans Bouvard et Pécuchet puisqu'ils ont toujours 36 choses à faire. Mais l'aspect émouvant de ces assertions ou de ces ordres, c'est que le but n'est plus la connaissance chez Kloski. Ce sont des messages publicitaires qui ne visent pas à apprendre, mais qui visent à consommer, à dépenser.
Document à caractère scolaire et pédagogique. 4. Larousse. Dictionnaire usuel. 42 500 mots. Flaubert, Gustave. Écrivain français. 1821-1880. Auteur de romans. Madame Bovary, Salammbô, L'éducation sentimentale.
Tu veux... Je sais pas. On ne parle pas de Love Story alors.
Non, mais
là, ça va tomber mal, je pense.
Si on ne peut pas faire un rapport avec Flaubert, c'est...
Ouais. Flaubert plus tard, une émission, question. Qu'est-ce qu'il reste de Flaubert à l'école, dans le dictionnaire, dans les livres et dans l'art, dans plusieurs têtes démultipliées en Normandie? Réponse 5 par Éric Landan. Copie et démultiplication. Copie et démultiplication. Révélation. Pécuchet se voit obligé de faire une triste révélation à son ami Bouvard. Révélation 0. 0 révélation sur Love Story. Révélation suite. Éric Landan est artiste de jour et gardien de nuit. Révélation suite. La nouvelle de B. Maurice, Les deux greffiers.
C'est un texte de B. Maurice, donc c'est quelqu'un, je pense, d'assez inconnu, puisqu'il n'est pas dans le Petit Robert. Et donc, il a publié ça en 1841. C'est une petite nouvelle qui fait 7-8 pages, quoi. Et c'est quasiment Bouvard et Pécuchet, quoi, dans le ton, dans l'histoire. C'est vraiment la même histoire, quoi. Donc, je peux résumer assez rapidement cette histoire. Donc, c'est l'histoire de deux greffiers qui ont un boulot de greffier, qui font ça pendant 38 ans, qui prennent leur retraite et achètent une maison de campagne. Alors, à la différence de Bouvard et Pécuchet, donc, c'est deux personnes qui s'appellent Robert et Andreas. Donc, c'est les deux nouveaux héros inconnus. Et donc, voilà. Alors, la différence, c'est qu'ils se contentent d'être pêcheurs et chasseurs, en fait. Donc, ils ne font pas toute l'encyclopédie. Ils ont juste deux passions. Mais c'est le même échec, en fait. C'est-à-dire qu'ils prennent cette maison de campagne pour s'adonner à cette passion. Et ça rate, quoi. Donc, le chasseur, par exemple, tue son chien le jour de la première chasse. Et le pêcheur tombe dans l'eau. Enfin, voilà, quoi. Et à la fin, pareil que dans Bouvard et Pécuchet, ils reprennent leur boulot de copiste. Donc c'est exactement la même histoire. Et je trouve ça assez curieux quand même. Comme dans Bouvard et Pécuchet, ils n'osent pas s'avouer qu'ils se sont adonnés à leur péché, quoi. En fait, donc ils retrouvent leur état primitif.
La différence avec Bouvard et Pécuchet, c'est qu'ils ont chacun une femme.
Ouais. Et il y en a un qui avait un chien, mais il a pas gardé très longtemps. Il avait 14 ans et il l'a tué. Voilà. Je me pose la question de savoir quelle est la différence, en fait, entre une nouvelle de 7-8 pages, qui est peut-être un peu juste, en fait, au niveau de la quantité, et Bouvard à Pécuchet. C'est-à-dire que c'est les mêmes histoires, c'est l'une qui est plus développée que l'autre. Donc, à la limite, moi, je me dis que Flaubert devait s'ennuyer beaucoup pour avoir justement envie de développer et pour se donner 10 ans de sa vie, quoi, pour faire le tour de tous les savoirs encyclopédiques. La différence, elle se situe, à mon avis, à ce niveau-là.
Ouais, et tu faisais aussi le parallèle entre Flaubert, d'une part, et puis Bouvard et Pécuchet, d'autre part.
Bah, c'est-à-dire qu'en fait, Flaubert, il a réussi, entre guillemets, deux gros bouquins, quoi, peut-être trois. Et à l'opposé, Bouvard et Pécuchet, c'est deux personnes qui échouent à chaque fois. Et je me demande justement s'il n'y a pas un entre-deux à trouver qui serait justement entre la réussite et l'échec, qui me semble plus juste, en fait. En fait, j'aime pas trop les gens qui souffrent, quoi. Et Flaubert, c'est quelqu'un qui devait souffrir pas mal. Donc moi j'aimerais trouver un entre-deux comme ça, peut-être pas faire quelque chose de génial, mais faire quelque chose d'humain, que l'écriture soit un principe de vie, quoi, qui s'inscrive dans une vie, et plutôt écrire dans le bonheur que souffrir. Mais en même temps, j'ai pas non plus totalement envie de tout rater comme Bouvard et Pécuchet, quoi. Donc j'aimerais bien me situer un peu entre les deux. On vit dans une société pyramidale où on a l'habitude de mettre les gens en haut d'une pyramide, ce qui fait qu'on a plusieurs pyramides qui sont en fait les classiques. Et il me semble que c'est possible de fonctionner autrement, donc de couper les têtes et d'avoir peut-être plus de petits Flaubert qu'un seul grand, en fait. Mais ça me semble possible, ça, vraiment. Moi, je suis persuadé de ça, c'est-à-dire que quand il y en a un, il y en a plein.
Est-ce que c'est ça que fait l'art contemporain ?
L'art contemporain, en fait, il est contemporain. Donc, et je pense que les temps ont changé. Enfin, le temps et les temps ont changé. Les choses vont beaucoup plus vite qu'avant. C'est-à-dire que, par exemple, Bouvard à Pécuchet, je pense que c'est un bouquin qui a mariné dans sa tête assez longtemps. Et je pense que maintenant, on ne peut plus faire ça. C'est-à-dire que garder en tête un bouquin pendant 20 ans sans le faire, ça me semble pas très plausible. Parce qu'en 20 ans, il y a tellement de choses qui changent que c'est plus possible, quoi. Donc c'est ça qui est intéressant dans l'art contemporain, c'est que les choses se font maintenant. Même en termes d'écriture, c'est la même chose, je pense.
Oui, surtout si dans Bouvard et Pécuchet, dans le dictionnaire des idées reçues, Flaubert reprend des clichés, des idées à la mode en son temps. Et c'est sûr que...
Déjà, c'est assez clair, c'est totalement dépassé assez vite, quoi.
Ouais.
C'est-à-dire que les idées reçues que lui a notées, elles sont plus valables maintenant, quoi.
Il y en a quelques-unes qui marchent encore.
Artistes,
oui, c'est sûr.
Artistes tous farceurs, par exemple, ça marche encore.
Oui.
Ça marche encore.
Oui, je voulais citer un passage qui annonce le dictionnaire des idées reçues. C'est « Nuit de jeudi, 1h ». Une vieille idée m'est revenue. Il faudrait que, dans tout le cours du livre, il n'y eût pas un mot de mon cru.
Bref, j'ai écrit un long texte qui s'appelle « Entendu à la télé », qui est donc un recueil de phrases que j'ai entendues à la télé à un moment de ma vie où j'écoutais pas mal la télévision, ne serait-ce qu'en fond. Et j'avais constaté effectivement qu'il y a pas mal de phrases qui sont assez intéressantes sans l'image, quoi. Donc j'ai fait un recueil de phrases qui se juxtaposent et qui font un tout. En même temps, c'est des phrases qui sont toujours hors sujet, c'est-à-dire que je parle jamais de la chose dont on parle à la télé au moment présent. C'est-à-dire que c'est souvent des phrases bouche-trou. Donc ça pourrait, par exemple, servir à une sorte de journaliste véreux qui voudrait avoir un catalogue de phrases bouche-trou pour compléter des sujets. En même temps, c'est aussi un panorama social contemporain. C'est-à-dire que je pourrais m'amuser à faire ça. Si j'avais 5 jours d'émission de télé d'il y a 20 ans, je pense que le constat serait pas le même. Mais c'est la même chose, enfin, c'est des banalités d'une époque.
Tu peux réécrire ton livre tous les 5 ans, en fait.
Oui, justement, d'ailleurs, ça c'est une idée qui m'intéresserait. C'est-à-dire que ce bouquin s'appelle « Entendu à la télé ». Moi, j'aimerais bien qu'il y ait d'autres gens qui fassent le même travail avec un résultat différent. Quand il y en a un, il y en a plein. Donc ça rejoindrait l'idée qu'on peut, sur un même sujet, en faire plusieurs, quoi, et pas un seul, quoi. Pas un seul livre qui s'appelle « Entendu à la télé », mais sous le même titre, par exemple, avec des auteurs différents. Je pense qu'on peut avoir plusieurs versions, quoi. En fait, c'est ça qui m'intéresse. C'est pas une seule version d'une chose, c'est plusieurs versions différentes. En fait, on se répartirait le travail, quoi.
Un Flaubert démultiplié.
Voilà.
En plusieurs personnes.
Déjà, moi, ça me ferait moins de boulot. Parce que je peux le faire tout seul, ça. Je peux faire de la poésie entendue à la télé aussi. Je le ferai peut-être, mais j'aimerais bien que quelqu'un d'autre le fasse, en fait, quoi. Ça serait plus drôle, quoi. Sur le même principe. Quand il y en a un, il y en a plein. Quand il y en a un, il y en a plein. Quand il y en a un, il y en a plein. Quand il y en a un, il y en a plein.
Alors, Flaubert perd de la modernité ?
Ah, ça, c'est la question qui tue. C'est tout.
Tous les lieux communs sur les âges, les sexes et les tempéraments leur semblèrent de la plus haute importance. Ils furent bien aises de savoir qu'il y a dans le tartre des dents 3 espèces d'animalcules, que le siège du goût est sur la langue et la sensation de la faim dans l'estomac. Pour en saisir mieux les fonctions, il regrettait de n'avoir pas la faculté de ruminer, comme l'avait eu Montaigre. Monsieur Gosse est le frère de Bérard. Et il mâchait avec lenteur, triturait, insalivait, accompagnant de la pensée le bol alimentaire dans leurs entrailles, le suivait même jusqu'à ses dernières conséquences, plein d'un scrupule méthodique, d'une attention presque religieuse. Afin de produire artificiellement des digestions, ils tassèrent de la viande dans une fiole où était le suc gastrique d'un canard. Et ils la portèrent sous leurs aisselles durant 15 jours sans autre résultat que d'infecter leur personne. On les vit courir le long de la grande route, revêtus d'habits mouillés et à l'ardeur du soleil. C'était pour vérifier si la soif s'apaise par l'application de l'eau sur l'épiderme. L'audition, la phonation, la vision furent expédiées lestement. Mais Bouvard s'étala sur la génération. Les réserves de Pécuchet en cette matière l'avaient toujours surpris. Son ignorance lui parut si complète qu'il le pressa de s'expliquer. Et Pécuchet, en rougissant, finit par faire un aveu. Des farceurs, autrefois, l'avaient entraîné dans une mauvaise maison, d'où il s'était enfui, se gardant pour la femme qu'il aimerait plus tard. Une circonstance heureuse n'était jamais venue, si bien que par fausse honte, gêne pécuniaire, crainte des maladies, entêtement, habitude, à 52 ans, et malgré le séjour de la capitale, il possédait encore sa virginité. Bouvard eut peine à le croire, puis il rit énormément, mais s'arrêta en apercevant des larmes dans les yeux de Pécuchet. Car les passions ne lui avaient pas manqué, s'étant tour à tour épris d'une danseuse de cordes, de la belle-sœur d'un architecte, d'une demoiselle de comptoir, enfin d'une petite blanchisseuse. Et le mariage allait même se conclure quand il avait découvert qu'elle était enceinte d'un autre. Bouvard lui dit: « Il y a moyen toujours de réparer le temps perdu. Pas de tristesse, voyons, je me charge si tu veux. » Pécuchet répliqua en soupirant qu'il ne fallait plus y songer. Et ils continuèrent leur physiologie.
Promenade en Basse-Normandie avec un guide nommé Flaubert. Gilles Henry. N'était-il pas intéressant de suivre les itinéraires de Flaubert ? De réaliser des promenades littéraires à partir de ses carnets de route afin de s'imprégner de la nature normande et de le faire, en quelque sorte, avec un guide nommé Flaubert. C'est la proposition de Gilles Henry qui invite ainsi tous les touristes, les randonneurs et les promeneurs, les écologistes et les amateurs de littérature à découvrir sur le terrain les images vues au siècle passé par ce bon normand, Gustave Flaubert.
Ça, c'est sympa. Ah oui, ça c'est cool ça. Ça me fait du bien. Après le carré de chocolat, on y va.
Question: qu'est-ce qu'il reste de Flaubert? À l'école, dans le dictionnaire, dans les livres et dans l'art, dans plusieurs têtes et dans la maison de Flaubert. Réponse 6 par Daniel Foucard, un souvenir au plafond. Indication: Daniel Foucard a publié Peuplement en 1999 aux éditions Aldante. Réponse 7. Une surprise. Plus une prophétie de Juste Romain Cyril Pécuchet. Et encore des renseignements du tourisme, des randonnées. Mais Flaubert plus tard, c'est maintenant. Et maintenant, c'est Daniel Foucard.
Alors Flaubert, pour moi, c'est une marque. C'est la marque même de la littérature. C'est-à-dire, c'est parce que Flaubert, c'est quelque chose qui représente la lecture, qui représente le livre, qui représente le roman, eh ben, je suis systématiquement passé à côté. Parce que ni le livre spécifiquement, ni le roman, et surtout pas la lecture, m'intéresse ou m'ont excité, en tout cas. Donc finalement, je suis venu parler avec toi de Flaubert pour dire que j'ai rien à en dire. Excepté peut-être quelque chose. C'est que je me suis aperçu que j'ai lu qu'un livre de Flaubert. J'ai lu paresseusement qu'un livre de Flaubert, et c'est trois contes. Et c'est trois contes parce que c'était trois contes courts. Donc ça me permettait techniquement de les lire. Donc c'est trois histoires dont je ne me souviens absolument de rien. Je les ai toutes les trois complètement oubliées. Donc symptomatiquement, quand je lis Flaubert et même quand je le lis peu, j'oublie quand même tout. Excepté une chose. C'est un personnage qui est, semble-t-il, pour ce que j'ai pu lire de Flaubert, est un des plus connus de l'œuvre de Flaubert, à savoir son perroquet. J'ai vaguement le souvenir que dans le troisième conte, une dame a un perroquet qu'elle aime particulièrement Et la dernière image qui est là, il me semble que ça finit comme ça, la dernière image qui est là, c'est l'image d'un perroquet flottant au-dessus d'elle. Donc je me suis dit que le souvenir que je pouvais avoir de Flaubert et ce qui pouvait incarner l'œuvre de Flaubert, c'était bêtement l'image d'un perroquet. Et ça me paraît peu, ça me paraît trop peu en tout cas. Et dès qu'on présente la marque Flaubert, c'est un perroquet qui apparaît, qui l'illustre pour moi. Donc j'ai pensé tout simplement à ce que c'était qu'un perroquet. Mais vraiment la bête, le perroquet. Et le perroquet, c'est une bestiole qui imite. C'est ce qui nous intrigue le plus. Et en l'occurrence, si le perroquet pour moi incarne l'œuvre de Flaubert, c'est parce qu'en tant que bête, il n'aime pas la littérature, mais en tant que perroquet, il est toujours prêt à l'imiter.
Alors, Flaubert perd de la modernité ?
Le perroquet perd de la modernité, peut-être, sûrement, oui. L'imitation.
Guide de Routard Haute-Normandie, 2000-2001. Des centaines de réductions. Le pavillon Flaubert, à 4 km à l'ouest du centre de Rouen. Téléphone 02 35 36 43 91. Prendre la D982 et sortir avant la côte de Canteleu-Croisset, puis longer le fleuve. Ou bus numéro 9 de la gare routière jusqu'à Croisset. Ouvert de 10h à 12h et de 14h à 18h. Fermé le mardi, les mercredis matins et jours fériés. Entrée 5 francs, 0,8 euros. De la belle propriété de famille, rasée par un promoteur après la mort de l'écrivain, reste juste ce minuscule pavillon et quelques arbres. Ruinés, les héritiers de Flaubert eurent la malencontreuse idée de revendre le terrain à un homme d'affaires qui fit construire une distillerie. Les admirateurs de Madame Bovary, l'éducation sentimentale, Bouvard et Pécuchet trouveront réunis dans ce petit musée quelques reliques comme le dernier verre auquel Flaubert porta les lèvres et le mouchoir avec lequel il s'essuya le front avant de mourir. À voir également des copies de manuscrits, quelques meubles d'origine, le fameux perroquet, le Bouddha doré qui trônait dans son cabinet de travail, des photos, des souvenirs relatifs à la Tunisie qui l'inspirèrent pour Salambeau, et un tableau représentant la propriété de Croisset à l'époque où ne passaient sur la Seine que des bateaux à aubes. La bibliothèque de l'écrivain est consultable à la mairie de Canteleu le mercredi après-midi, téléphone 02 35 76 35 22. On peut également se recueillir sur sa tombe au cimetière de Rouen.
Allô ?
Oui.
Oui. Jacques-Henri Michaud.
C'est Emmanuel.
C'est Emmanuel.
Bon, bonjour.
Vous allez bien ?
Ça va, oui.
Où est-ce que vous êtes ?
Bah, je suis à Bordeaux, là.
Ah bon ?
Ouais.
Ça va bien, Bordeaux ?
Oui, oui, à peu près, oui.
Vous aviez quelque chose à ajouter sur Flaubert ?
Ben, j'avais quelque chose à ajouter. J'avais regretté de ne pas avoir mentionné le nom de Saint Polycarpe. Voilà. Alors, oui. Flaubert a découvert un jour, sur les quais de la Seine, une gravure qui représentait un vieillard à la barbe et aux cheveux en bataille, avec les yeux levés vers le ciel et dans une expression de colère intense. Et alors, la première mention de Saint Polycarpe, puisque c'est de lui qu'il s'agit, se trouve dans une lettre de 53, je la cite, hein. Mmh. On dit ceci. Et quel discours, quel langage, alors là, Flaubert parle de ses contemporains, où allait vivre miséricorde, Saint Polycarpe avait coutume de répéter, en se bouchant les oreilles et s'enfuyant du lieu où il était, dans quel siècle, mon Dieu, m'avez-vous fait naître ? Et Flaubert ajoute, je deviens comme Saint Polycarpe. Voilà. Mmh. Alors qu'est-ce qui se passe dans ce rapport de fraternité, de connivence entre Saint Polycarpe et Flaubert, ou plutôt entre Flaubert et Saint Polycarpe ? C'est qu'à partir d'une position d'extrême minorité qui leur est commune à tous les deux, que non seulement ils vont tonner contre leur époque, la maudire, la vomir, déclarer que c'est la pire de toutes, mais surtout, chacun d'entre eux s'en prend à l'abomination du discours majoritaire qui, à leurs yeux, caractérise la dite époque. Voilà. Mm-hmm. Ça. Ouais. C'est-à-dire qu'avec Flaubert, le combat que mène Flaubert en minoritaire contre l'arrogance du non-pensé, du prêt-à-penser général, dans son désir d'écraser toute singularité, le combat qu'il le mène, il le mène contre ce qu'il appelle très souvent la bêtise. Alors, en ce qui concerne Barnabé, l'ABC du dessin Barnabé, je dirais qu'une notable partie, pas tous, hein, mais une notable partie des clichés médiatiques qui sont cités dans le livre, qui sont cités à comparaître, sont en réalité des termes ou des tournures issues directement ou indirectement de la toute-puissance de l'économie de marché, qui constitue, selon lui, le fond même de l'époque. Cette époque, disons la dernière décennie du XXe siècle, celle où il entreprend d'écrire et contre laquelle il essaie avec les moyens du bord de résister quelque peu. Voilà. Mmh. Et ce que je voudrais ajouter, c'est que c'est cette économie-là qui est à l'origine même du pire pour lui, d'un pire en somme de type nouveau. Parce que quelle époque, c'est finalement, ça se répète au cours des âges. Alors la conscience de Barnabé, c'est que ce pire-là n'a pas encore existé. C'est-à-dire que jamais le pouvoir mondial de l'argent ne s'est manifesté avec une telle brutalité, disons, et jamais ne s'est effectué une aussi brutale et cynique valorisation de ces pouvoirs-là. Et les États-Unis d'Amérique et un certain usage planétaire de la langue américaine ou de ses dérivés y étant assurément pour quelque chose. Bon, j'ai dit ça, c'est un peu généralisant, mais bon. Mais c'est ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est que ce serait justement par là, d'une manière tout à fait étrange, que Barnabé retrouverait, sinon directement Gustave Flaubert, du moins juste Romain Cyril Pécuchet. Parce que dans les notes pour le chapitre 10 de Bouvard et Pécuchet, il est dit que le dit Pécuchet, je cite, « voit l'avenir de l'humanité en noir ». Et ce qu'il entrevoit, c'est entre autres ceci. « Barbarie par l'excès de l'individualisme », par où il faudrait entendre égoïsme, indifférence à l'autre, loi de la jungle, etc. Et puis, ceci qui m'a vraiment étonné quand je l'ai retrouvé, l'Amérique aura conquis la Terre. Mmh. Alors, voilà, en somme, une assez bonne prophétie. Mmh. Voilà.
D'accord.
Quand il y en a un, il y en a plein.
Flaubert, Gustave. 163, 271, 285, 301, 443, 445, 499, 516, 523, 524, 544, 546, 590, 591.
Comme il faisait une chaleur de 33 degrés, le boulevard Bourdon se trouvait absolument désert. Plus bas, le canal Saint-Martin, fermé par les deux écluses, étalait en ligne droite son eau aux couleurs d'encre. Il y avait au milieu un bateau plein de bois et sur la berge, deux rangs de barriques. Au-delà du canal, entre les maisons que séparent des chantiers, le grand ciel pur se découpait en plaques d'outre-mer et sous la réverbération du soleil, les façades blanches, les toits d'ardoise, les quais de granit éblouissaient.
Avec Jacques-Henri Michaud, écrivain. Chloé Delhomme, écrivain. Didier Malgor, professeur à l'École des Beaux-Arts de Montpellier. Éric Landan, artiste de jour, gardien de nuit. Daniel Foucard, écrivain. C'était Flaubert plus tard, Patrick Muller, Jean-Marie Charon, Rafi Kervoukian, Pascal Revel, Jean-Louis Deloncle, Bernard Treton, une émission d'Emmanuel Pirère et Olivier Bosson. Précision, les dictionnaires et documents à caractère scolaire, touristique et intéressant étaient lus par Christelle Würmser. Entre autres choses, Christelle Würmser double des dessins animés, elle est la voix de Jeanne, l'amie de Daria dans Daria. Précision, Hubert Vieille est en train de lire Bouvard et Pécuchet. Précision, Hubert Vieille est journaliste. Le journal de 22h tout à l'heure, c'était lui. Le journal de minuit tout à l'heure, ce sera lui.
Aisément dans la casquette du particulier en redingote le mot Pécuchet. Tiens, dit-il, nous avons eu la même idée, celle d'inscrire notre nom dans nos couvre-chefs. Eh mon Dieu, oui. On pourrait prendre le mien à mon bureau. C'est comme moi. Je suis employé. Alors ils se considérèrent. L'aspect aimable de Bouvard
charma de suite Pécuchet. Ses yeux bleuâtres, toujours entreclos, souriaient dans son visage coloré. Un pantalon à grands ponts qui godait par le bas sur des souliers de castor moulait son ventre, faisait bouffer sa chemise à la ceinture, et ses cheveux blonds frisés de même en boucles légères lui donnaient quelque chose d'enfantin. Il poussait du bout des lèvres une espèce de sifflement continu. L'air sérieux de Pécuchet frappa Bouvard. On aurait dit qu'il portait une perruque, tant les mèches garnissant son crâne élevé étaient plates et noires. Sa figure semblait tout en profil, à cause du nez qui descendait très bas. Ses jambes prises dans des tuyaux de lasting manquaient de proportion avec la longueur du buste. Et il avait une voix forte, caverneuse. Cette exclamation lui échappa. Comme on serait bien à la campagne. Mais la banlieue, selon Bouvard, était assommante par le tapage des guinguettes. Pécuchet pensait de même. Il commençait néanmoins à se sentir fatigué de la capitale. Bouvard aussi. Et leurs yeux erraient sur des tas de pierres à bâtir, sur l'eau hideuse où une botte de paille flottait, sur la cheminée d'une usine se dressant à l'horizon. Des miasmes d'égout s'exhalaient. Ils se tournèrent de l'autre côté. Alors ils eurent devant eux les murs du grenier d'abondance. Décidément, et Pécuchet en était surpris, on avait encore plus chaud dans les rues que chez soi. Bouvard l'engagea à mettre bas sa redingote, lui, il se moquait du candidaton. Tout à coup, un ivrogne traversa en zigzag le trottoir, et à propos des ouvriers, ils entamèrent une conversation politique. Leurs opinions étaient les mêmes, bien que Bouvard fût peut-être plus libéral. Un bruit de ferraille sonna sur le pavé dans un tourbillon de poussière. C'était trois calèches de remise qui s'en allaient vers Bercy, promenant une mariée avec son bouquet, des bourgeois en cravate blanche, des dames enfouies jusqu'aux aisselles dans leurs jupons, deux ou trois petites filles, un collégien. La vue de cette noce amena Bouvard et Pécuchet à parler des femmes, qu'ils déclarèrent frivoles, acariâtres, têtues. Malgré cela, elles étaient souvent meilleures que les hommes, d'autres fois, elles étaient pires. Bref, il valait mieux vivre sans elles. Aussi, Pécuchet était resté célibataire. « Moi, je suis veuf, dit Bouvard, et sans enfant. C'est peut-être un bonheur pour vous. » Mais la solitude à la longue était bien triste. Puis au bord du quai parut une fille de joie avec un soldat, blême, les cheveux noirs et marqués de petites véroles. Elle s'appuyait sur le bras du militaire en traînant ses savates et balançant les hanches. Quand elle fut plus loin, Bouvard se permit une réflexion obscène. Pécuchet devint très rouge. Et sans doute pour s'éviter de répondre, lui désigna du regard un prêtre qui s'avançait. L'ecclésiastique descendit avec lenteur l'avenue des maigres ormeaux jalonnant le trottoir, et Bouvard, dès qu'il n'aperçut plus le tricorne, se déclara soulagé, car il exécrait les jésuites. Pécuchet, sans les absoudre, montra quelques déférences pour la religion. Cependant, le crépuscule tombait, et des persiennes en face s'étaient relevées, les passants devinrent plus nombreux, 7 heures sonnèrent. Leurs paroles coulaient intarissablement, les remarques succédant aux anecdotes, les aperçus philosophiques, aux considérations individuelles. Ils dénigrèrent le corps des ponts et chaussées, la régie des tabacs, le commerce, les théâtres, notre marine et tout le genre humain, comme des gens qui ont subi de grands déboires. Chacun, en écoutant l'autre, retrouvait des parties de lui-même, oubliées. Et bien qu'ils eussent passé l'âge des émotions naïves, ils éprouvaient un plaisir nouveau, une sorte d'épanouissement, le charme des tendresses à leur début. 20 fois, ils s'étaient levés, s'étaient rassis et avaient fait la longueur du boulevard, depuis l'écluse d'amont jusqu'à l'écluse d'aval, chaque fois voulant s'en aller, n'en ayant pas la force, retenue par une fascination. Ils se quittaient pourtant et leurs mains étaient jointes quand Bouvard dit à coup « Ma foi, si nous dînions ensemble ?» J'en avais l'idée, reprit Pécuchet, mais je n'osais pas vous le proposer. » Et il se laissa conduire en face de l'hôtel de ville, dans un petit restaurant où l'on serait bien. Bouvard commanda le menu. Pécuchet avait peur des épices comme pouvant lui incendier le corps. Ce fut l'objet d'une discussion médicale. Ensuite, ils glorifièrent les avantages des sciences. Que de choses à connaître, que de recherches, si on avait le temps. Hélas, le gagne-pain l'absorbait. Ils levèrent les bras d'étonnement. Ils faillirent s'embrasser par-dessus la table en découvrant qu'ils étaient tous les deux copistes. Bouvard dans une maison de commerce, Pécuchet au ministère de la Marine. Ce qui ne l'empêchait pas de consacrer chaque soir quelques moments à l'étude. Il avait noté des fautes dans l'ouvrage de M. Thiers et il parla avec les plus grands respects d'un certain Dumouchel, professeur.